Juste, je voudrais la parole de Dieu dans le livre des Juges, au chapitre 3. Et nous lirons un seul verset. Le verset 31. Après lui, alors lui c'est Ehud, un héros national, après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Amen. On va lire, ce témoignage qui nous est rapporté concernant un personnage. Alors, avant lui, vous le lirez à la maison, il est question de personnages illustres, Othniel par exemple, Othniel, alors qu'en Israël, eh bien, le roi de Mésopotamie avait mis sa domination, Othniel a été suscité par Dieu, la Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel fut sur lui, et il a été un grand libérateur, et un juge qui a permis que pendant 40 ans, le peuple de Dieu soit en repos. Et puis, l'adversité, elle est récurrente. Un autre roi, le roi Eglon, le roi des Moabites, a mobilisé ses troupes pour faire la guerre à Israël. Et Dieu a suscité encore un héros. Quoique gaucher, il a été l'instrument spectaculaire de Dieu pour libérer Israël. C'est Ehud. Et puis, on aurait pu lire au chapitre 4 l'intervention de Jabin, le roi de Canaan, qui lui aussi, après 80 ans de repos en Israël, va revenir faire des tracasseries au peuple de Dieu. Et alors, il y a Déborah. Vous connaissez l'histoire de Déborah. Je me suis levé, moi, Déborah, comme une mère en Israël, dans une époque où c'était l'insécurité, les routes étaient désertes, chacun était tapi, terrorisé, pétrifié, il y avait une insécurité, une menace dans tout le pays. Et puis Déborah s'est levée, voilà. Et puis, entre Othniel, Ehud, Déborah, il y a le verset 31 que nous venons de lire concernant un personnage qui n'a pas du tout, en tout cas à vue humaine, la même envergure que ses prédécesseurs et ses successeurs, ben, il y a eu quelqu'un qui s'appelait Shamgar, fils d'Anath. Et lui, avec un aiguillon à bœuf, il va faire la guerre. Vous imaginez le tableau, d'accord ? Il y a des centaines de Philistins armés jusqu'aux molaires, et vous avez un bonhomme, Shamgar, qui prend un aiguillon à bœuf, c'est une tige de bois, on va en parler tout à l'heure, et il leur dit, moi je vais vous faire la guerre. Et même si le tableau, même si la scène a quelque chose qui se rapproche du risible, ben le résultat n'a pas fait rire les Philistins, parce que avec un aiguillon à bœuf, Shamgar a tué 600 Philistins. Et il fut lui aussi, dit la Bible, il fut lui aussi un libérateur du peuple d'Israël. Je crois que Dieu veut faire lever des Shamgar au milieu de son peuple. Alléluia ! Des hommes, des femmes habités d'une foi telle qu'ils ne vont pas craindre le ridicule, ils vont se défaire du complexe d'infériorité, de la frilosité naturelle, et armés par le Seigneur, équipés par lui, mandatés par lui, investis de son autorité, ils vont livrer le bon combat de la foi. Gloire au Seigneur. Shamgar. Alors je vais vous inviter à faire un peu plus connaissance avec cet homme, Shamgar. Son nom signifie « celui qui garde soigneusement ». Et il est mentionné, donc son ascendance, son père s'appelait Anat, ce qui signifie « faveur et grâce ». Faveur et grâce. On pourrait dire que Shamgar, c'est le fils de la grâce. Il résulte de la grâce. Celui qui vous prêche ce soir, c'est un fils d'Anat. Je suis là parce que un jour Dieu m'a fait grâce. Et je sais qu'il en est ainsi pour vous. Nous sommes tous les résultats d'un mystère qui nous bouleverse, c'est la grâce. C'est que Dieu nous a fait grâce. Alors que nous ne le connaissions pas, enfoui dans nos péchés, Dieu s'est révélé à nous, alléluia. On n'est pas devenu chrétien par hasard, on est devenu enfant de Dieu par miracle. Et il nous a révélé sa personne, il a révélé à nos cœurs le prix qu'il a payé pour nous sauver en Jésus-Christ, et sa grâce a bouleversé nos cœurs. L'adolescent, imbu de lui-même que j'étais, a vu fondre ses résistances, sa fierté et ses apparences derrière lesquelles je me retranchais. Et dès mon premier culte, j'ai pleuré sur mes péchés. Premier culte. Dieu a révélé sa grâce. Nous sommes les enfants de la grâce. Et nous sommes appelés à suivre des voies nouvelles dans lesquelles Dieu veut nous conduire, et en particulier à développer cette qualité de Shamgar, celui qui garde soigneusement. C'est la première partie de ma prédication ce soir, la pensée de la vigilance, de la protection, de garder, de conserver intact les trésors de la grâce que Dieu a déposés dans nos cœurs. Amen. Savoir garder. L'apôtre Paul disait à Timothée, « Timothée, garde le bon dépôt. » Moi, je suis sûr qu'à chaque réunion, que cela soit une soirée de prière ou un culte, que sais-je encore, Dieu dépose en nous des trésors. Oui ou non? Dieu ne se lasse pas de nous enrichir de perles, de diamants, de promesses précieuses, de paroles, de bénédictions. Alléluia! Il dépose en nous sa paix qui surpasse toute intelligence. La joie de l'Éternel, qui est d'une autre qualité que la joie frivole et éphémère de ce monde. Il dépose en nous sa vie, ses trésors, à nous de garder soigneusement. Parce qu'il existe le voleur, vous savez, celui que Jésus appelle le voleur. Le diable n'empêchera jamais Dieu de nous bénir. Mais après que Dieu nous ait bénis, en voleur qu'il est, il essayera de nous voler la bénédiction. Alors écoute-moi bien, Dieu est en train de te bénir ce soir. Mais dès que tu vas franchir le seuil de ce local pour retrouver tes soucis, tes combats, tes réalités personnelles, il en est un qui va chercher à voler ce que Dieu aura déposé dans ton cœur. Eh bien toi, ne le lui permets pas. Faites-moi un gros amen. Ne le lui permets pas, mais garde soigneusement. Garde soigneusement. Lorsque l'ange Gabriel a visité Marie et lui a annoncé le merveilleux événement qui allait se produire, la Bible nous dit Marie, elle repassait ces choses dans son cœur. Elle ne voulait pas les oublier. Elle les repassait. Et ce soir, en rentrant chez toi et en buvant la tisane avant de te mettre au lit, repasse la prédication. Alléluia. Et demain matin, pendant que ton café est en train de passer, réécoute le message. Repasse. Mémorise. Imprègne-toi. Et garde soigneusement, ne permets pas à l'adversaire de ton âme de te voler ne serait-ce qu'une parcelle des trésors que Dieu aura déposés dans ton cœur. J'ai besoin de me garder et je prie pour que Dieu lui aussi me garde. Amen. La pensée de la vigilance veille sur ton cœur, dit le proverbe. Veillez. Veille sur ta maison. C'est Jésus qui le dit. Parce qu'on ne sait pas à quelle veille de la nuit le voleur va passer, n'est-ce pas? La vigilance, la protection, la conservation, l'idée de la conservation. Moi, ma belle-mère, il y a des années en arrière, nous a donné des conserves, mais vraiment préparées dans les règles de l'art. Vous savez, les paysans de l'époque, ils connaissaient les lois de la conservation. Et on a ouvert, il n'y a pas très longtemps, un de ces bocaux. On s'est régalé. Et j'ai été étonné de la qualité et de la saveur de ces légumes qui étaient dans le bocal depuis de nombreuses années. Aucun germe n'a pu abîmer la qualité de ces denrées. Eh bien, au plan spirituel, conserve dans sa qualité initiale ta foi. Ne laisse aucun germe s'insinuer dans ta foi. Ne serait-ce qu'un germe microscopique d'incrédulité, un commencement de doute, un commencement d'une pensée qui remettrait en question la promesse sûre et certaine de Dieu. C'est un germe. Et toi, tu as besoin de garder et de te garder et de repousser ces vecteurs nocifs qui voudraient abîmer, appauvrir, détériorer, dégrader la beauté de notre foi. Le premier élément que je suis appelé à garder, pour ma part personnelle, je veux garder la foi. Moi, j'entends un de mes exemples bibliques, l'apôtre Paul, qui à la fin de sa vie va dire « J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Et moi, quand j'entends Paul me dire « J'ai gardé la foi », je ne peux pas accepter l'idée tant bien que mal, j'ai quand même réussi à garder un petit reliquat de foi. Non ! Ce n'est pas une foi vieillie, usée, appauvrie que Paul a réussi à conserver. Il a conservé sa foi intacte. Amen ! Gloire à Dieu ! Nous croyons tous que Dieu fait des miracles encore aujourd'hui ? Vrai ? Amen ? Nous croyons qu'il n'y a chez le Père des Lumières aucun changement ? Aucune ombre de variation ? Mais alors si tu le crois, mon bien-aimé, ça va changer ta prière. Ça va changer ta prière. Ça va lui redonner peut-être une intonation perdue, une assurance égarée. Garde, conserve ta foi intacte. Ni l'évolution de l'histoire de l'humanité, ni les apparents échecs vécus ne pourraient remettre en question l'authenticité et la validité de ce que Dieu a dit. Quand Dieu dit, je peux le croire, et je veux le croire d'une foi intacte et non pas usée et appauvrie. J'ai gardé la foi, Il y a d'autres versets que l'on pourrait citer. Après garder le bon dépôt, après garder la foi, Jésus dira à une des églises où il envoie une lettre, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi. » Voilà une église dont Jésus met une qualité en évidence. Cette église a gardé la parole de la persévérance en Jésus. La persévérance. Alléluia. Où en est ma persévérance? Elle est peut-être bien affectée et comme une corde usée, il ne reste plus que deux fibres là qui restent et elle est peut-être pas loin de lâcher. Eh bien, que le Saint-Esprit te visite ce soir et fortifie ta persévérance. Alléluia. Combien de fois il m'est arrivé dans ma marche avec le Seigneur de me trouver dans un état personnel tellement épuisé, débordé. La question que tout le monde comprendra, comment ferais-je pour aller jusqu'au bout? Eh bien, au moment où on se pose cette question, brusquement, le Saint-Esprit nous visite et il nous donne un regain de force et des capacités de persévérer. Oui, oui. Dieu, ton Dieu, va te donner la mesure de secours qui va te permettre de persévérer. Quelqu'un peut-être a baissé les bras ce soir parmi nous. Peut-être quelqu'un est tout près de démissionner de sa foi et de son attachement à Christ. Peut-être des pensées tentantes tourbillonnent dans ton esprit en disant « Mais arrête de lire ta Bible, cesse de prier ». Arrête, prends du recul par rapport à l'Église, cesse d'espérer. Eh bien, au contraire, espérant contre toute espérance, relève la tête et garde la parole de la persévérance. Et même, dis-le au Seigneur. Tu connais dans quel état je me trouve intérieurement. Cependant, Seigneur, je m'attache à ta parole avec persévérance. Et ça honore le Seigneur et ça réjouit son cœur. Alors, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi. Que Dieu soit béni. De garder, garder. Il y a tellement de versets. Le temps me manquera. Il y a ce verset merveilleux. Voici, je viens comme un voleur, va dire Jésus, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Garder ses vêtements. Apocalypse 16, 15. Celui qui garde ses vêtements. Moi, je prie pour que nous tous, nous soyons en vigilance constante pour garder nos vêtements purs, sains. Amen. En bon état. Un vêtement, ça se tache. Un vêtement, ça s'abîme. Alors moi, ma femme n'est pas là, ça va, elle vous dirait... Combien de fois, par maladresse, j'ai accroché. Alors, hop, il y a un fil qui est tiré comme ça. Oh, quelle catastrophe. On vient de l'acheter il y a 15 jours. À Poulainbire. Oh là là. Quelle catastrophe. Un vêtement, ça s'abîme. Alors, il faut veiller, il faut garder. La Bible nous parle de trois sortes de vêtements dont le Seigneur nous revêt. Sans entrer dans trop de détails, mais simplement en les nommant, il y a le vêtement de la justice. Amen. Vêtement de la justice. On est justifié, pardonné, purifié. Et maintenant, quand on vient vers le Seigneur, alors il nous voit juste. Et par-dessus, il y a le vêtement de louange. Ah oui. Comment ne pas louer le Seigneur devant cette grâce magnifique? Lui qui nous justifie alors que nous sommes coupables, répréhensibles, il nous justifie, ça nous émerveille, alors nous le louons. Oui ou non? Amen. C'est le vêtement de louange. Garde ton vêtement de louange. Amen. Ne laisse pas sur un cintre dans un fond du dressing. Garde ton vêtement de louange. Gloire à Dieu. Et puis, il y a le troisième vêtement, c'est le vêtement sacerdotal, le vêtement du service. Le vêtement du service. Et pourquoi ? Dans la loi lévitique, Dieu avait interdit que les sacrificateurs déchirent leurs vêtements. C'était interdit. On peut déchirer son cœur dans des moments de deuil, de brisement, et Dieu va nous faire grâce, mais on ne doit pas déchirer nos vêtements. La Bible l'interdit. Parce que si je déchire mon vêtement sacerdotal, ça équivaut à renoncer à mon service, à arrêter mon service. Et Dieu dit non, garde ton vêtement et garde tes vêtements. Ce sont les vêtements du salut. Oui, Shamgar, c'est celui qui garde soigneusement. Et puis ce Shamgar, je le disais, va se sentir poussé dans un contexte très spécial, hein, d'adversité pressante, à prendre cet aiguillon à bœuf et à aller au combat avec cet aiguillon à bœuf. Une tige de bois, 2,50 m, avec une extrémité, une pointe métallique, et à l'autre extrémité, une lame métallique. Et c'était les paysans qui se servaient de cet instrument lorsque ils attelaient un bœuf à la charrue. Ils avaient à portée de main l'aiguillon à bœuf. Et alors on y allait. Et il se passait parfois que le bœuf commençait à dévier, le sillon commençait à se déformer. Alors le paysan prenait l'aiguillon à bœuf et avec l'extrémité pointue, boum, il envoyait un signal. Il piquait derrière une oreille, soit droite, soit gauche, selon que la rectification le nécessitait, et le bœuf, il comprenait très bien. Il n'y avait pas besoin de Google interprétation. Il comprenait très bien le signal. Et il rectifiait la trajectoire, et le sillon redevenait bien rectiligne. L'autre extrémité était équipée d'une lame métallique, et le paysan l'utilisait lorsqu'il constatait que, au cours de la progression, la lame, le soc de la charrue, se chargeait en mottes de terre humide qui collaient à la lame, ce qui rendait difficile, ça alourdissait la progression et l'efficacité aussi était diminuée parce que les sillons, eh bien, se faisaient difficilement. Alors, le paysan arrêtait le bœuf. Il prenait l'aiguillon à bœuf et avec la lame métallique, il détachait, il décollait tous les conglomérats de boue qui s'étaient collés au soc. Et il reprenait le travail, et le travail redevenait facilité et de meilleure qualité. Je crois que nous avons besoin de tirer de l'instruction de ces deux utilités de l'aiguillon à bœuf. Combien j'ai besoin, et combien certainement tu as besoin, que le Seigneur nous envoie des signaux impactants derrière l'oreille pour nous faire garder la bonne direction. Amen. Vous avez tous constaté dans les Saintes Écritures l'importance de l'oreille, de l'ouïe, de l'écoute. Si mon peuple écoutait, son bonheur serait comme un fleuve. Mais vous n'avez pas écouté. Mais tant de textes mettent l'accent sur l'importance de l'écoute qui va nous permettre d'être sensibilisés par les signaux envoyés par le Seigneur et par le Saint-Esprit et à travers les prédications. Ce sont des coups d'aiguillon à bœuf, pas pour lui faire du mal, mais pour le maintenir dans la bonne direction, bien droite. Amen. Je ne sais pas vous, mais il m'est arrivé deux ou trois fois, mais ça fait longtemps, hein, de regarder à la télévision des concours de dressage de cheval. Vous voyez ? Et j'ai été impressionné par la relation qu'il y a entre le cavalier et son cheval. Le cavalier est capable de faire à son cheval toutes sortes de figures. Et vraiment, j'ai essayé de comprendre à quel moment le cavalier donnait ses ordres. Il ne dit rien, mais il y a une telle communion, on va dire, entre le cavalier et sa monture, juste une pression imperceptible sur un côté, sur un autre, un geste qui est invisible à l'œil, ça suffit pour que le cheval stoppe. Il se met à faire trois pas en diagonale, il se met à trotter, à galoper, il fait toutes sortes de figures, mais je me dis comment le cheval réussit à comprendre les signaux que lui envoie son maître. C'est une question de communion, d'intimité entre le maître et son cheval. Dieu nous appelle à développer notre communion avec le Seigneur. Amen. De sorte que nous n'aurons pas besoin que Dieu hausse le volume pour nous faire entendre sa volonté. Mais dans cette intimité, vous savez, regardez ce qui s'est passé. David voit Saül, son ennemi, entrer dans la grotte, s'endormir. Et le lieutenant de David lui dit, mais c'est l'Éternel qui t'envoie Saül pour que tu le raccourcisses. Alors David, qui a été un homme de Dieu, va s'approcher et avec son épée, il va couper un bout de la tunique de Saül et il va sentir son cœur battre. Immédiatement, Dieu lui envoie un signal qui voulait dire non. Et David s'est rétracté. C'est cette sensibilité-là que Dieu veut développer en chacun de ses enfants. L'aiguillon à bœuf qui donne des signaux qui impactent dans le but que nous gardions la bonne direction. Et puis, le deuxième élément de cet aiguillon à bœuf, c'est cette lame métallique qui intervient chaque fois que l'on constate une surcharge pesante d'éléments inutiles qui viennent coller, et le Seigneur veut nous en débarrasser. Quelquefois, dans les visites pastorales, on écoute le récit de certaines personnes qui nous racontent leur parcours, leurs expériences, leurs traumatismes, leurs douleurs, leurs souffrances. Et on s'aperçoit que tout ce vécu, aujourd'hui encore, colle à leur mémoire. Et ça appesantit la marche. Il y a nécessairement besoin qu'à un moment donné, par la parole agissante de Dieu, tu sois débarrassé de tout ce qui veut peser sur ton cœur. Ton histoire est peut-être lourde. Tes échecs, tes déceptions, tes trahisons subies, les injustices. Tu pourrais peut-être dresser une longue liste de choses que tu as vécues qui t'ont été inconfortables, douloureuses et qui viennent coller à ta mémoire. Mais si ta mémoire est chargée comme ça, tu vas avoir du mal à progresser. Alors il y a l'aiguillon à bœuf. Et il y a le Saint-Esprit qui veut utiliser cet aiguillon à bœuf pour te débarrasser, te soulager, t'alléger, te libérer. Que le Seigneur libère l'âme de quelqu'un ce soir. Amen. Que ta mémoire soit épurée de tous les souvenirs qui alourdissent ta progression, qui t'épuisent et qui te handicapent. Alléluia. Moi, je crois que Dieu veut le faire ce soir. Dieu veut visiter ton cœur. Dieu veut que tu repartes plus léger, plus légère. Amen. Plus libre. Alléluia. Que ton âme, qui était enserrée par un vécu complexe, soit mise au large, que le Seigneur soit béni. Je termine ce